France Inter.
Ce dimanche, dans Interception, il y a deux courses. D'abord, une course aux métaux rares, et ça, le monde entier est sur la ligne de départ. On a tous les mêmes batteries et les mêmes téléphones portables. Et puis l'autre course, c'est celle pour la mairie de New York. Beaucoup d'Américains espèrent que c'est le laboratoire de l'opposition à Trump. On va aussi boire du thé au beurre de yak, et il paraît que c'est très épais. New York, donc, va élire son maire ce mardi, et peut-être va-t-elle le choisir musulman, déclaré socialiste, ouvertement pro-palestinien. Sur l'échelle de ce que l'Amérique de Trump déteste, on est très très haut, et cet homme, dont le nom ne vous est pas encore familier, est passé en quelques mois de 1% d'intention de vote à grand favori des sondages. Il s'appelle Zohran Mamdani, il ne tombe pas exactement de la lune, ça fait longtemps qu'il est très impliqué dans sa ville, il s'est fait élire en 2020 à l'Assemblée de l'État de New York, c'est l'une des deux chambres de l'État, et c'est de là qu'il a donné du poids aux sections locales des socialistes démocrates d'Amérique, les DSA. Ce mot socialiste, croyez-moi, il compte. Il a travaillé sur les énergies renouvelables, sur les transports publics, les expulsions locatives. Il a fait la grève de la faim avec des chauffeurs de taxi. Évidemment, il a tout compris des réseaux sociaux. Il a aussi été rappeur. Et quand il a décidé de se lancer dans la course à la mairie, les électeurs, il les a eus au charme.
Interception. Fabienne Saintès sur France Inter.
Il est très charismatique aussi.
If you ever see him smile,
si vous le voyez sourire, c'est vraiment contagieux. Il a cette manière de désarmer les gens, c'est très troublant, très singulier. Et c'est probablement sa plus grande arme.
En face, le Parti démocrate est soudain apparu comme un vieux parti, loin des gens, usé. Sur son soutien à Gaza, Mamdani a dû beaucoup batailler, mais il s'est adressé à la communauté juive et sa place dans les sondages est restée tout en haut. Bref, une campagne sur les chapeaux de roue, quasiment sans faute. Mais maintenant, est-ce qu'il est aux avant-postes d'un autre parti démocrate? Les partisans de Mamdani, évidemment, le croient dur comme fer. Vous allez pouvoir juger en le suivant, vous aussi, avec Isabelle Labéry, pour ouvrir la marche.
On est au Jazz at Lincoln Center. C'est une grande salle de spectacle à Manhattan. Le parterre est plein, l'assemblée assez chic. Les gens ici ont payé $125 pour venir écouter Zohran Mamdani.
Good morning, everyone. It is a real pleasure.
Voilà, il est là, en face de nous, le phénomène de la politique new-yorkaise, le cœur à gauche sous un look de fils de bonne famille, col de chemise blanc, pull bleu marine, veste de costume. Il est coiffé court, avec une barbe impeccable.
J'aimerais vous demander, vous avez une façon formidable de connecter avec les gens. Si vous devenez maire, vous allez vous isoler forcément. Vous serez moins en contact direct. Vous ne pourrez plus faire vos vidéos, par exemple. Comment vous envisagez la suite?
Eh bien, parfois, je serai avec mes gardes du corps dans une voiture aux vitres teintées. Mais certains jours, je prendrai le métro ou un vélo en libre-service. Certains jours, j'attendrai un bus, qui n'arrivera peut-être jamais.
Au moins, grâce à vous, il sera gratuit. Comme on arrive à la fin, j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pourriez relancer votre carrière de rappeur en tant que Mr. Cardamom? Est-ce que vous allez de nouveau rapper pour la politique?
Quand vous posez une question à un musulman et qu'il vous répond « Inch'Allah », ça peut vouloir dire tout et son contraire. Oui, non, peut-être. Il vous reste juste à espérer. Je vous laisse donc avec cette réponse.
Parce qu'avant de faire de la politique, Zohran Mamdani a commis quelques chansons, Mister Cardamom, c'était son pseudo. C'était surtout pour rire. Pour comprendre qui est Zoran Mamdani, né en Ouganda de parents indiens, arrivé aux États-Unis à l'âge de 7 ans, je prends le métro direction le Queens, un peu plus à l'est. C'est l'un des 5 arrondissements de New York. C'est là surtout que son parcours politique a commencé. On est dans le quartier de Jackson Heights où je vais retrouver Jackpreet Singh. C'est un militant engagé de longue date dans la défense de la communauté sud-asiatique. Il est directeur politique d'une organisation qui s'appelle Drum, comme tambour, qui a fait un énorme travail de terrain pour donner de la visibilité à cette communauté et surtout l'inciter à voter. On va au Kebab King, c'est le resto emblématique des chauffeurs de taxi du quartier.
Juste devant, c'est la place de la diversité. C'est le premier endroit où viennent la plupart des Sud-Asiatiques quand ils arrivent à New York. Ma famille est arrivée ici dans les années 90, depuis le Punjab. Diversity Plaza, c'est une place centrale très populaire. Pendant les fêtes, vous verrez beaucoup de monde. Mais là, il commence à faire un peu froid à New York. Mais il y a un peu de monde. Et vous verrez des Bengalis qui vendent des noix de coco. C'est un quartier très sud-asiatique. J'aime vraiment cet endroit. Le thé ici est probablement le meilleur de tout Jackson Heights. Donc ça, c'est du thé au lait. Un autre incontournable que vous trouverez à Jackson Heights, c'est le thé au beurre de yak. Avec l'arrivée de la communauté himalayenne, ils mettent du beurre dans le thé. Allons à l'étage.
Zoran Mamdani vient régulièrement dans ce café, dans ce quartier. Ses origines, est-ce que c'est un atout pour sa candidature ?
Bien sûr, le fait qu'il ressemble à un Sud-Asiatique, qu'il parle ourdou et hindi, sa religion, le fait de pouvoir prier avec d'autres musulmans, tout ça, c'est très important. Mais je peux vous citer de tête 20 candidats d'ascendance sud-asiatique qui se sont présentés ces 10 ou 15 dernières années. Ils ont tous perdu. Pardon, il y en a un qui a gagné, tous les autres ont perdu. L'identité à elle seule ne suffit pas, parce que ce n'est que de la représentation. Il faut aussi de la substance. Zoran a apporté cette substance. Et puis, il a aussi été créatif. Ici, à New York, pour l'élection municipale, on utilise le vote préférentiel. Ce sera seulement la deuxième fois. On vote pour un maximum de 5 personnes et ensuite on les classe. 1, 2, 3, 4, 5. Et par un processus d'élimination, les voix sont redistribuées. Même si votre numéro 1 est éliminé ou n'a pas beaucoup de voix, elles vont vers votre numéro 2 s'il est encore en lice. C'est un processus compliqué, c'est déjà compliqué pour moi de vous l'expliquer là, mais Zoran a fait une vidéo en ourdou et en hindi en utilisant l'image du lassi à la mangue, une de nos boissons traditionnelles, pour montrer comment ça fonctionne. En fait, il utilise son identité à son avantage, pour éduquer et pour toucher les électeurs.
Hey ! Avez-vous déjà voté ?
Oui !
Et avez-vous déjà voté en mode préférentiel ?
Quoi ?
Souvent, nos communautés sont laissées de côté. Nos voix ne comptent pas. Parce qu'on n'est pas un groupe démographique assez solide pour faire basculer une élection. Mais tout cela a changé maintenant. Avant, par exemple, 15 à 20% maximum de notre communauté bangladaise allait voter. À cette élection, dans certains districts, on a vu 50% de participation. Il y a plein de raisons à ça. L'apathie électorale, bien sûr. Beaucoup de nos membres viennent de pays où il n'y a pas une culture civique très forte. Mais même ici, les politiciens prenaient à peine le temps de s'adresser à nos communautés. Ils ne venaient pas nous demander ce que l'on veut pour notre avenir, pour nos enfants, pour les prochaines générations, où est-ce que nous voulons voir des investissements. Et cette campagne a changé ça dès le début. Zoran va de communauté en communauté, dans la rue, au contact des gens.
Et lui, Zoran Mamdani, vous avez le sentiment qu'il comprend vos préoccupations ? Pourtant, il vient d'un milieu qui est très différent. Son père est enseignant à l'université, sa mère, c'est une réalisatrice reconnue. Il a grandi dans une famille très éduquée, sans aucun problème d'argent.
Même si Zoran vient d'un milieu privilégié, il n'a jamais mis de côté les questions qui touchent la classe ouvrière. Beaucoup de ses amis étaient des enfants de chauffeurs de taxi qui travaillaient dans la rue. Et c'est pour ça que lorsqu'il est devenu député à l'Assemblée, l'une des premières campagnes qu'il a prises à bras-le-corps, ça a été l'effacement de la dette des chauffeurs de taxi. Pendant la pandémie de Covid, beaucoup de nos immigrés sans papier n'avaient pas accès aux aides, aux subventions, aux allocations chômage. À ce moment-là, Zoran et quelques autres députés ont dormi dehors à Albany pour faire passer une loi pour leur accorder un peu plus d'un milliard de dollars d'aide. Donc même s'il ne vient pas de ces milieux, il comprend très bien les enjeux.
Vous, vous l'avez côtoyé de près pendant la campagne. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez lui ?
Il est très charismatique aussi. Si vous le voyez sourire, c'est vraiment contagieux. Il a cette manière de désarmer les gens, c'est très troublant, très singulier. Et c'est probablement sa plus grande arme.
Il est 19h30, il fait nuit noire, mais à New York, il fait jamais noir. J'ai rendez-vous dans une maison d'édition qui organise une rencontre avec un auteur sur les socialistes new-yorkais.
Je m'appelle Lizzie O. J'ai été invitée aujourd'hui à animer l'événement parce que je suis membre des socialistes démocrates de New York. Je fais ça depuis longtemps. Zoran est vraiment engagé dans l'organisation et dans notre projet. C'est assez fou de voir comment il est devenu hyper populaire, alors que lui, il a toujours voulu représenter le mouvement des socialistes démocrates. Pas seulement lui-même. Et maintenant, nous sommes face à un dilemme intéressant. Il nous faut rapidement renforcer nos ressources pour le soutenir dans l'exercice du pouvoir. Mais nous devons aussi continuer à mener la campagne pour faire avancer nos revendications au niveau de l'État, pendant que lui s'assure qu'elles se concrétisent à l'échelle de la ville.
Je suis Fabian Holtz, professeur associé à l'université de Roskilde, au Danemark. Je suis là pour promouvoir mon livre intitulé « S'organiser ou brûler » sur l'organisation des démocrates socialistes d'Amérique qui ont recruté et permis l'émergence de Mamdani. La façon dont sa campagne a débuté est vraiment révélatrice. Lorsque Trump a remporté les élections pour la deuxième fois, la première décision de Mamdani a été de sortir dans son district et de parler aux gens dans la rue pour leur demander « Pourquoi avez-vous voté pour Donald Trump ?» Il s'est intéressé aux gens ordinaires, aux travailleurs, à ce qu'ils ressentent. Il a découvert qu'ils avaient du mal à payer leurs factures. C'est comme ça que le thème de l'accessibilité a occupé une place centrale dans sa campagne. Il ne s'agit pas de mettre au premier plan l'idéologie politique et le mot socialisme, mais plutôt des valeurs fondamentales, comme le fait qu'il n'est pas juste que certaines personnes n'aient pas les moyens de vivre en ville. C'est une question de valeurs. C'est pour ça qu'il est si populaire.
Et qu'est-ce qui pourrait le ralentir ou l'entraver ?
Il a de grands défis qui l'attendent. Le paysage politique et la culture politique du pays traversent aujourd'hui une telle crise que tout est imprévisible. Ce sera très difficile pour lui d'être maire, à cause de l'opposition. Il aura du mal à tenir ses promesses. Certaines personnes pourraient l'en empêcher. Mais dans des circonstances ordinaires, il pourrait devenir un homme politique pour plusieurs décennies.
Derrière Mamdani, il y a donc les démocrates socialistes et leurs sympathisants, une armée d'environ 50 000 bénévoles.
All right, we'll go ahead and get started. Who's first time canvassing ever? Amy's first time? Yes, awesome.
Ces soldats du terrain, on va les suivre à Astoria, un autre quartier du Queens. Astoria, c'est vraiment la circonscription électorale de Zoran Mamdani, un bastion de la gauche progressiste, d'ailleurs, c'est là qu'il habite. Et aujourd'hui, à Astoria, il y a un canvas. Pendant quelques heures, les militants vont tirer les sonnettes pour faire la promotion de leur candidat et rappeler ses trois principaux thèmes de campagne, des bus gratuits, la garde d'enfants gratuite et le gel des loyers encadrés.
Fast it! Provide universal child care, health care too, but also child care. All right, cool.
Bonjour, je m'appelle Kyle Huey, je suis chef de terrain au sein de la campagne de Zoran Mamdani. On dit toujours « ne rencontrez pas vos héros », n'est-ce pas ? Mais j'ai rencontré Zoran plusieurs fois, j'ai eu quelques conversations avec lui, et il est juste aussi gentil qu'il en a l'air sur les réseaux sociaux. Il est la quintessence du rêve américain. C'est un enfant d'immigré, il a fait des études, il s'est impliqué pour améliorer son quartier et sa communauté. Et il s'en soucie vraiment. C'est juste un gars bien.
Hi, I'm Lydia.
Je m'appelle Lydia, je viens de Los Angeles. Et je suis ici parce que Zoran me donne beaucoup d'espoir sur ce que pourrait être l'Amérique pour les jeunes comme moi à l'avenir. Je pense que quelqu'un comme Zoran est bien plus représentatif de ce que sont les États-Unis que Trump.
Did you say you came from LA?
Tu as dit que tu venais de LA? Cool.
Nice.
Tu es membre des DSA?
Une
touriste DSA, j'adore.
So, Democratic Socialists
les DSA, les démocrates socialistes d'Amérique, c'est un groupe important. Zoran est candidat DSA. On a des touristes, je les appelle comme ça, touristes DSA, ils viennent de partout, juste pour Zoran.
Je m'appelle Jack Perdue, j'ai 23 ans, j'habite ici à Astoria dans le Queens. Je fais du démarchage pour Zoran depuis janvier, février. Quand j'ai commencé à faire du porte-à-porte et à participer à la campagne, il était à 1% dans les sondages. La plupart des gens ne le connaissaient pas. Ça a été d'autant plus spectaculaire de le voir quelques mois plus tard remporter la primaire avec 12% d'avance sur l'ancien gouverneur. Sa victoire a changé le paysage politique au niveau national même, parce que beaucoup de choses qui se passent à New York ont une influence bien au-delà. Ça pousse beaucoup de gens à se poser des questions sur l'avenir du Parti démocrate. Les gens sont fatigués de cette politique de centre-gauche mainstream qui n'apporte rien à personne, et ils s'intéressent davantage à la vision plus à gauche de gens comme Zoran, Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez. Surtout en ce moment où les choses sont inquiétantes au niveau national avec Donald Trump. Les gens s'ouvrent à des idées qui leur auraient fait peur auparavant.
New York, laboratoire d'un futur parti démocrate. En tout cas, en face, Mamdani à Andrew Cuomo, ancien gouverneur démocrate, vexé d'avoir perdu aux primaires, et le républicain Curtis Sliwa. New York, la barre à gauche. Un reportage signé Isabelle Labéry. Allez, on rentre en France.
France Inter, Interception.
Il faut d'abord imaginer un village. 370 habitants, c'est tout petit, dans le département de l'Allier. Le village s'appelle Échassières. Et sous les pieds de ces 370 habitants, il y a la plus grande réserve de lithium de France, l'une des plus grandes d'Europe. C'est pas si simple de rouvrir des carrières. En France, il faut du temps, mais on a un pied dans la porte. La carrière, c'est la carrière de Beauvoir. L'entreprise s'appelle Imerys et le projet Émilie. Mais à quoi ça ressemble, ce début d'extraction ? Suivons Mathieu Bonnour.
Nous arrivons au milieu de la carrière de Beauvoir. En dessous de nos pieds, il y a une immense cuvette avec un peu d'eau turquoise au fond. Quand on lève la tête, on aperçoit des arbres au bord de cet énorme trou là où ça a été creusé. Autour de nous, des grands murs d'une centaine de mètres de hauteur avec des sortes d'escaliers creusés dans la paroi pour que les engins de chantier puissent monter et descendre. Ils s'attaquent à la roche qui est blanche, c'est ce qu'on appelle du kaolin. Il y a d'énormes engins de chantier qui travaillent, des pelleteuses en train de remuer le sol qui versent ça dans des gros camions où la roche sera amenée plus tard à l'usine.
Bonjour, je suis Eric Legrand et je travaille pour Imerys sur le projet Émilie. Donc voilà la carrière de kaolin de Beauvoir, en dessous de laquelle donc, on ira chercher le fameux lithium.
Voilà. C'est immense la vue comme ça, cet énorme trou béant avec différents étages de cette roche blanche.
Et pourtant c'est pas une très grosse carrière. Il y a des carrières beaucoup beaucoup plus grosses, c'est plutôt une petite carrière.
On extrait combien là à l'année ?
À peu près 30 000 tonnes de kaolin.
Le lithium, vous l'avez découvert comment et quand ?
Alors c'est une vieille histoire puisqu'on le BRGM avait fait des études. C'est le bureau de recherche géologique et minière qui avait montré donc la présence de lithium. Sauf que dans les années 60, on n'avait pas encore vraiment de marché pour ce minerai. Et du coup, ça n'avait pas été exploité. Maintenant, avec la transition énergétique, le développement des voitures électriques et des batteries qui vont avec, du coup, le lithium revient au premier plan et reprend de l'intérêt.
Il y en a quelle quantité potentiellement dans cet endroit où on se trouve ?
Alors, on a un gisement qui est à l'aplomb, en fait, sous la carrière. C'est un gisement qui est assez compact et qui est assez vertical. Les sondages les plus profonds ont été faits à peu près à 900 mètres, justement par le BRGM. Et nous, on a fait des sondages et on va exploiter, en fait, le gisement sur 400 mètres dans un premier temps. Voilà. Et on va sortir à peu près, on va produire 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an, ce qui correspond à peu près à l'équipement de 700 000 véhicules électriques.
Quand est-ce que vous avez espoir d'aller extraire le lithium qu'il y a au fond de cette cuvette ?
Pour l'instant, on est sur un calendrier qui nous emmène avant la fin de la décennie, donc à 2029. Vous savez, nous, on est très en amont dans la chaîne de valorisation du lithium, parce que là, on est vraiment le premier maillon. Ce lithium-là, il va ensuite aller à d'autres opérateurs qui vont fabriquer des éléments de batterie, on appelle les CAM, et qui eux-mêmes vont vendre leurs éléments à des fameuses gigafactories qui vont, elles, fabriquer les batteries des véhicules électriques. Et ensuite, les batteries vont partir chez le constructeur pour équiper des voitures. Dans un contexte parfois de géopolitique, pas forcément très stable, c'est une sécurité supplémentaire de pouvoir produire ce lithium sur place, ici.
Donc là, Eric Legrand a pris ce qu'on appelle une carotte. C'est un échantillon du sous-sol, un morceau cylindrique d'à peu près 50 cm de long, 30 cm de large. On va s'éloigner un peu de la carrière pour le regarder de plus près.
Donc là, ce sont des demi-carottes en fait, puisqu'à l'origine c'est un cylindre. Ce sont des échantillons en fait du granit de Beauvoir. Donc on voit que c'est un granit qui est très blanc. Et les petits points là qu'on voit qui brillent. Je ne sais pas si vous les voyez.
Oui, c'est tout petit point voilà. Donc gris.
Ça c'est le mica, et c'est dans ce mica qu'il y a le lithium.
Ce chiffre-là sur la carotte, 114,80, c'est la profondeur à laquelle vous êtes allé la chercher.
Exactement, c'est ça.
Donc ce bout de caillou que vous tenez dans les mains vient de 114 mètres en profondeur par rapport au bas de la cuvette déjà.
C'est ça, tout à fait. Et ça a à peu près 300 millions d'années. C'est l'époque où l'objet géologique s'est formé.
Devant nous, il y a le début de la mine, surtout l'usine, et encore après, derrière, quelques bâtiments administratifs. En réalité, ce sont des Algeco, des bâtiments provisoires, montés à la hâte pour les géologues, pour le laboratoire, pour l'administration. Parce que le nombre de personnes qui travaillent ici a explosé ces dernières années avec ce nouveau projet. Nous avons rendez-vous avec Christopher Eman, géologue et directeur du site.
Vous êtes arrivé à l'instant ?
On a fait la route directe, histoire d'être juste à côté. Kaolin bien blanc. Merci.
Vous avez du sucre, si vous voulez.
Merci. Parfait.
Ce site abrite un gisement de lithium qui est exceptionnel, en France, aussi au niveau européen, en termes de volume et de qualité de minerai.
On dit gisement parce qu'il y a une forte présence ?
Voilà, tout à fait. La démarche scientifique, ce serait plutôt de parler d'anomalies chimiques, si vous voulez. Donc on est sur des taux anormaux de lithium. Et à partir d'un certain moment, on parlera de gisement parce qu'économiquement, il serait rentable de l'extraire.
Comment vous faites pour passer de ce bout de granit tout blanc, le kaolin, à du lithium ? Où est-ce qu'il est dedans ? Comment on l'extrait ?
Dans un granit, on a trois minéraux principaux. On a des micas, des feldspaths et des quartz. Ce sont les micas qui portent le lithium. Donc la première étape va consister à aller extraire les micas du granit, isoler les micas. C'est ce qu'on appelle la concentration. L'autre phase, qu'on appelle la conversion, ça va être d'aller sortir le lithium des micas. Il faut aller extraire la roche. On choisit de le faire en souterrain sur le projet Emily. Il faut l'abattre avec des explosifs. Ensuite, la concasser pour que les petits micas se détachent des autres minéraux. Quand la roche est broyée, elle est broyée en voie liquide. Donc on va la mélanger avec de l'eau. On va mettre ce mélange dans des bacs. Et là, on va faire de la flottation. C'est-à-dire qu'on va mettre des réactifs qui vont venir s'accrocher uniquement aux micas. Donc il suffit ensuite d'injecter des bulles d'air dans ces bacs pour que ces réactifs s'accrochent aux bulles d'air et remontent en surface en emportant avec eux les micas. Donc, les micas se retrouvent en surface des bacs et là après on peut ce qu'on appelle écumer, donc récupérer la surface des bacs et se retrouver avec un concentré de micas.
Et ensuite ces petits bouts de micas, qu'est-ce qu'ils deviennent ?
Là on va pouvoir le transporter sous cette forme-là pour arriver sur l'étape de la conversion. Une étape un peu plus complexe chimiquement, où on va récupérer du coup le lithium sous forme d'hydroxyde de lithium, qui est la qualité batterie, si vous voulez, pour nos futurs clients. La plus prisée, car la plus efficace.
34 000 tonnes de lithium par an, vous engendrez quelle quantité de déchets derrière ? C'est-à-dire quelle quantité de roche est-ce que vous allez extraire qui va finir, entre guillemets, à la poubelle ?
Alors les guillemets sont importants sur l'aspect à la poubelle, sur la partie concentration. Donc déjà on a de la roche non valorisable qu'on va devoir traverser pour aller atteindre la roche valorisable. Ça c'est des stérides primaires qui se gèrent facilement. Après on a un côté résidu au niveau de l'usine de concentration. Quand je vous parlais des bacs qui permettent d'isoler les micas, évidemment dans ces bacs on va aussi isoler les deux autres minéraux, qui sont les sables et les feldspaths. On peut les remblayer en souterrain. Notre technique d'extraction nous permet de les remettre sous terre avec l'ajout de ciment pour remplir nos anciennes chambres d'extraction. Une partie des résidus pourront également aller combler en surface la carrière actuelle des kaolins. Donc le site est propice, si vous voulez, à la gestion de ces résidus de concentration.
Et vous entendez quand même la crainte de dire ben vous allez utiliser notamment de l'eau, va y avoir des questions de déchets à gérer.
Le projet a été construit en prenant en compte tout ça. On sait qu'on va ouvrir un projet minier en France. La mine n'a pas vraiment bonne presse en France. Et on sait qu'on va devoir faire le maximum pour réduire les impacts, pour rendre le projet le plus responsable possible. Donc nos choix d'aller extraire en souterrain sont liés à ça, de privilégier des transports par train sont liés à ça, de mettre en place des process qui recyclent au maximum l'eau sont liés à ça. Donc d'entrée de jeu, dans l'ADN du projet, il y a l'idée de minimiser tous ces impacts environnementaux. Cela étant dit, c'est important en France qu'on assume notre mode de vie. Même si on tend vers plus de sobriété, on a besoin des mines. Et notamment des mines de lithium. Et c'est vrai que voilà, la solution parfaite n'existe pas, mais en tout cas, on pense que l'existence d'une mine en France, avec notre code du travail, notre code de l'environnement, etc., on réduit au maximum les impacts et on garantit finalement l'extraction la plus responsable possible. Ça, si vous voulez, c'est l'illustration d'une étude d'impact. Donc là, il y a un rapport sur la biodiversité.
Bah, les mesures acoustiques, les mesures environnementales, les analyses d'eau, etc. Donc ça, c'est les études d'impact pour les kaolins. L'étude écologique, par exemple, c'est un an d'étude, parce qu'il faut étudier en automne, au printemps, en été. Si on trouve des larves, il faut les faire se développer pour voir quel type de scarabée c'est. Enfin, je veux dire, on ignore à quel point on pousse loin le truc en France, hein, sur l'hydrologie. Pareil, c'est toute la chimie des eaux, les débits, pareil sur l'hydrogéologie, sur les études d'impact, d'acoustique, de vibration, en fait, d'études socio-économiques, etc. etc. Donc en fait, c'est extrêmement fourni en fait, comme dossier. Donc tout ça, c'est très long à constituer. Donc voilà, c'est toujours le avant, pendant, après. Enfin, c'est hyper, hyper complexe. Hein. C'est pour ça qu'on a une armée de spécialistes, qu'on travaille avec beaucoup de bureaux d'études, qui soient indépendants, qui puissent, justement, si le projet il est impactant, il faut le dire, il faut dire de combien. Et une fois qu'on a le projet et les impacts du projet, après, il y a toutes les méthodes de remédiation, de réduction de ces impacts. La substance de tout ça, là, si je prends l'exemple des kaolins, c'est la préfecture qui va nous délivrer un arrêté préfectoral.
Alan Part, vice-président des projets lithium pour le groupe Imerys. En Europe, aujourd'hui, on est 100% dépendant. Et donc, oui, c'est une bonne nouvelle d'avoir ce type de gisement sur notre territoire parce que c'est un pas de plus vers une certaine indépendance sur, non pas le pétrole du passé, mais les métaux de la transition énergétique du futur.
Très concrètement, votre lithium face au lithium d'Amérique du Sud, je prends cet exemple, il y aura combien d'euros de différence pour les industriels parce que c'est eux que vous allez devoir convaincre au bout ?
En ordre de grandeur, c'est quelques euros. Oui, on est en Europe, on a certains éléments de coût qui sont plus chers que si on était en Chine ou en Amérique du Sud, mais on cherche à être parmi, on va dire, le tiers des projets les plus compétitifs et ça, on pense qu'on peut y arriver.
Qui est-ce qui va financer ces investissements pour créer finalement cette mine souterraine ?
Notre projet il coûtera de toute façon plus d'un milliard d'euros d'investissement. Et ensuite, les financements, alors Imerys, pour l'instant, a financé les phases de développement. À un moment donné, on cherchera un partenaire. Et ensuite, il y a des mécanismes aussi de prêts fléchés vers des projets qui peuvent aussi être utilisés pour que ce ne soit pas que des capitaux privés qui sont investis dans le projet.
Le fait que l'Europe reconnaisse votre projet récemment parmi 47 projets stratégiques,
c'est une reconnaissance que certains projets, premièrement, servent la cause de la transition énergétique ou de la défense ou des industries stratégiques pour l'avenir de l'Europe, et deux, des potentielles facilités de financement. Mais l'intention doit se traduire dans des actes. On doit montrer qu'on est capable en Europe d'être plus agile, plus réactif, s'aligner plus rapidement. La Chine a peut-être probablement 10-15 ans d'avance sur nous. Les États-Unis sont plus agile. Encore une fois, je pense que l'intention est là. Maintenant, il faut vraiment qu'on accélère.
Est-ce que c'est très difficile d'ouvrir une mine en France en 2025 ?
Oui. Donc, il faut aussi convaincre qu'on peut faire les choses différemment, qu'on peut développer ce qu'on appelle les mines responsables, avec des technologies du 21e siècle très différentes, mais les gens n'ont pas forcément ça en tête. Expliquer, faire preuve de pédagogie, convaincre. Les certitudes du passé ne sont pas forcément les certitudes de l'avenir. Et donc, plus on peut être souverain sur des éléments stratégiques qui servent des industries stratégiques, plus on aura des cartes en main pour être plus serein, pour que notre société, notre économie puisse se développer de la manière la plus indépendante possible.
L'autre manière pour l'Europe d'obtenir des métaux rares, ça passe par le recyclage. On a quitté l'Allier et sa mine de lithium, quelques heures de train et nous voilà en Belgique. Je vais chez le leader mondial du recyclage de ces métaux rares, la société Umicore. Son principal site est à Hoboken, c'est dans la banlieue d'Anvers. Ici, on recycle de l'or, du palladium ou même du rhodium. Alors ces métaux, on les connaît peu, mais pourtant ils sont partout dans notre quotidien, dans la batterie de nos téléphones ou dans les moteurs des voitures hybrides. Le site de Hoboken, c'est gigantesque. Pas particulièrement moderne, mais hyper vaste, avec plein de bâtiments.
Yeah. Mm-hmm.
On vient de passer l'étape de vérification des identités, contrôle de sécurité.
Ok, thanks.
Et on va maintenant s'équiper parce qu'on est sur un site industriel avec des normes très strictes.
Donc le masque, le casque, les lunettes de sécurité, surchemise pile à notre taille et les chaussures.
C'est avec Steven Kustermans du service communication qu'on commence la visite.
Hi. We go.
You can just sit on the first bench.
Vous pouvez vous asseoir sur la première banquette.
Le site est tellement grand, 116 hectares, qu'il faut se déplacer en van ou en vélo pour aller d'un endroit à l'autre. Et on va voir normalement la première étape du recyclage de ces métaux rares.
Nous avons deux entrées pour l'arrivée des matières brutes. Par la route, ça passe par là. Et nous avons aussi les arrivées par bateau, via notre petit port. Ce sont environ 6000 containers qui arrivent chaque année par voie maritime, qui entrent donc sur notre site, et à peu près la même chose, 6000 qui en repartent. Donc environ 12 000 qui n'empruntent pas la route grâce à notre port sur le site. Et voilà, nous sommes arrivés au département des échantillons. C'est Ine qui va vous expliquer comment ça se passe quand les matériaux arrivent avant qu'ils ne soient traités.
Hi, welcome.
Bonjour, bienvenue, je suis Ine de Rath, responsable du département échantillonnage ici à Hoboken. Ici à Hoboken, on reçoit chaque année 500 000 tonnes de déchets bruts à traiter. Vous voyez ici une benne avec des téléphones portables. À l'intérieur de tous ces portables, il y a de petits circuits imprimés qui contiennent des métaux précieux. C'est ce matériau qu'on recycle.
On entre dans la première étape de l'échantillonnage, une sorte d'énorme bâtiment industriel avec des machines qui remontent sur presque une dizaine de mètres de hauteur. C'est ici que les matériaux sont d'abord amenés, déposés, traités. Ils sont réduits dans une toute fine poudre. Et c'est pour ça que nous devons porter un masque et des lunettes de protection pour ne pas s'exposer à cette petite poudre qui contient énormément de métaux. On va aller à l'extérieur parce que c'est beaucoup trop bruyant pour rester ici.
Over here, a typical lot of printed circuit boards.
Ici, vous avez le résultat typique du broyage de circuits imprimés.
Gold components.
Vous pouvez déjà apercevoir ici et là des composants en or. Une tonne de circuit imprimé classique peut donner jusqu'à 300 grammes d'or. Le premier broyage réduit les circuits imprimés en morceaux de 4 cm par 4 cm. On va ensuite procéder à un deuxième broyage qui cette fois les réduit en morceaux de 7 mm par 7. On brûle les plastiques parce qu'ils ne nous intéressent pas. Et tout le lot de 20 tonnes de téléphones termine en échantillon de 4 kg de minerais recyclables.
Après le broyage des déchets, direction maintenant les fours. C'est l'étape suivante du processus de recyclage industriel.
Manuel Verschuren, je suis responsable des opérations de fonte dans les fourneaux. Le fourneau est situé à l'intérieur de ce grand bâtiment bleu et blanc là, devant nous. 50 mètres de hauteur, 12 étages, mais le four en lui-même ne va que du deuxième au cinquième. Tout ce que vous voyez autour, c'est pour la production de chaleur et surtout pour l'extraction et le traitement des poussières et des gaz issus du processus industriel. C'est dans ce four qu'on démarre la séparation des métaux, du cuivre, des métaux précieux et des déchets de métaux. Ce tube qui fait le tour du bâtiment ramène les déchets et les injecte dans le fourneau au rythme de 100 tonnes par heure. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le four monte à une température de plus de 1000 degrés. Cette température élevée est nécessaire pour liquéfier les déchets de métal. On ajoute de l'oxygène, c'est un processus d'oxydation, et certains réagissent, d'autres pas. C'est ce qui permet de séparer les métaux précieux des autres. Ensuite, ils sont extraits et traités dans d'autres secteurs du site. On peut comparer ça à un mélange d'eau et d'huile. L'huile va remonter à la surface de l'eau. Ici, ce sont les métaux précieux en bas et les autres en surface.
On avance et on se rapproche petit à petit de ce bâtiment avec le four à l'intérieur. C'est assez impressionnant de l'extérieur. Et avec toute cette chaleur, il y a de la vapeur qui sort d'un peu partout, par tous les trous et les conduits de ce bâtiment.
On va aller au cinquième étage, tout en haut du fourneau, là où on alimente le four.
Nous sommes au cinquième étage, c'est la pièce de contrôle avec donc des écrans un peu partout autour de nous, plusieurs opérateurs qui surveillent ce qui se passe. Quelle énergie est-ce que vous utilisez pour alimenter ce four ?
On utilise un mix de fioul lourd et d'oxygène, mais du fioul recyclé est aussi utilisé dans ce processus. La lumière orange que vous voyez là sur les écrans, c'est le fourneau. On va extraire les métaux précieux par en dessous. Ils sont en fusion sous forme liquide. C'est solidifié ensuite en blocs, de gros blocs qui pèsent des tonnes. Un bloc, c'est le poids d'une voiture. Et quand c'est solidifié, ça part dans un autre secteur où on extrait les métaux jusqu'à leur forme parfaitement pure. Au final, on a 17 métaux précieux qu'on peut revendre à nos clients.
On n'en saura pas beaucoup plus sur le fonctionnement détaillé du processus industriel du Micor. Comment il sépare ensuite les minerais rares qui sont récupérés dans les déchets, comment on isole l'or, le lithium, le cobalt, etc. C'est un secret extrêmement bien gardé. Tout au long de notre visite, on a été accompagné par un vigile, en retrait, mais toujours présent. Pour finir ce reportage, je vais maintenant voir le PDG du Micor. Il reste discret sur son savoir-faire industriel, mais avec lui, on va parler de la place du recyclage en Europe pour ces minerais rares, dont le continent manque cruellement. D'autant que sa société a déposé deux nouveaux projets auprès de la Commission européenne pour étendre encore ses activités.
All right. Bart Sapp, CEO of Umicore.
Bart Sapp, je suis PDG d'Umicore.
Hoboken
est vraiment un site unique. Il est au cœur des besoins clés de l'Europe pour ce qui est des matières premières. Ici, à Hoboken, on recycle 17 types de matières premières avec un flux de déchets qui arrive de plus de 200 sites industriels ou spécialisés dans le recyclage. Ici, on répond aux besoins et aux futurs besoins de l'Europe pour son indépendance dans les domaines des matières premières, des technologies et de la mobilité.
Vous parlez de l'Europe, elle a sélectionné deux nouveaux projets du Micor. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ?
On sait que la Chine domine aujourd'hui la production de matières premières. Il faut souligner d'ailleurs que la Chine a en réalité des ressources assez limitées dans ce domaine. Ils ont sur leur territoire surtout de l'or comme matière première, mais ils l'utilisent comme une arme commerciale en ce moment, en restreignant l'exportation de ces matières premières. Alors la question pour l'Europe, c'est est-ce qu'on veut dépendre de l'Asie ou être plus indépendant ? Et quand je parle de dépendance ou d'indépendance, je parle de dépendance pour la mobilité, donc des batteries, de leur production, mais c'est aussi de dépendance technologique qu'il s'agit, parce qu'une grande partie des matières premières critiques sont nécessaires aux nouvelles technologies, dans le domaine spatial, de la connectivité, de la défense, de la transition écologique. Selon nous, Umicore, l'Europe a compris qu'on avait besoin de ces matières premières. Qu'est-ce que l'Europe doit changer ? Je crois qu'elle doit accélérer l'unification du marché des déchets. 72% des déchets sont exportés hors du continent européen. Donc, il faut créer de l'incitation pour que ces déchets restent en Europe, afin que tout soit recyclé ici avec la bonne technologie. Et c'est ça notre mission, c'est cela qu'on défend. Pour ça, il faut unifier le marché, car aujourd'hui, les règles dans les différents pays européens empêchent cela.
Est-ce que vous avez l'impression que les institutions prennent l'ampleur du défi devant elles, les institutions européennes ?
Elles veulent changer les choses. Elles voient qu'il y a un besoin, mais la question, c'est de savoir si elles sont capables de convaincre les différents pays européens. Parce que la décision se prend à 27, quand la Chine ou les États-Unis décident peut-être avec une seule personne et lancent des initiatives. Donc c'est un vrai défi. Et je constate que quand une décision commune doit être prise, les pays européens défendent encore en premier lieu leurs intérêts propres.
Métaux rares, le grand chantier de l'Europe. Un reportage de Mathieu Bonnour avec Marc Garvenès et Michael Simon pour la prise de son. À la production d'Interception cette semaine, il y avait Xavier Yvon. La réalisation est signée Lucie Lemarchand. Martine Messonnier est chargée de programme. Selim Guéribi, Sybille Clamins et Corentin Rouchy assuraient le mixage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro au bout du monde et au coin de la rue.